querer, tontos.
Salut à tous, bienvenue sur Bike FM 106.1, bienvenue dans l'émission Check Me Load, émission consacrée à l'actu métal, et comme chaque semaine, on va faire un petit tour d'horizon. Là, on est au mois de décembre, donc les sorties s'amenuisent, nettement. Je vous en ai quand même trouvé quelques-unes que j'ai sélectionnées pour aujourd'hui. Et puis, d'ici une demi-heure, interview sur Bike FM dans Check Me Load avec un groupe de hardcore, un groupe assez légendaire sur la scène hexagonale. Il s'agit de Forest in Blood, qui fait cette année son grand retour avec un nouvel album qui s'appelle Pirate. On va découvrir ça tout à l'heure, on va en parler là dans quelques minutes. Et puis, sinon, outre les sorties de ce 7 décembre, on reviendra sur quelques-unes des semaines précédentes. On a encore de quoi se mettre sous la dent. Ne vous inquiétez pas, il y a encore des nouveautés dans la catégorie métal. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette tout de suite dans l'ambiance de l'interview qui aura lieu tout à l'heure. Je vais vous présenter un petit peu Forest in Blood. Donc, le groupe né en 1998. Leur style, c'est le brutal hardcore avec aussi un petit mélange de thrash à la Slayer. Ils sont inspirés aussi de groupes comme Hatebreed, par exemple. Et c'est une recette qui fait effet sur scène, puisque très rapidement il y a un véritable engouement qui va se créer autour du groupe, les dates vont se multiplier, les critiques sont excellentes et Forest in Blood va devenir un membre actif de la scène hardcore parisienne. En 2000, le groupe va sortir un split CD avec Cryavoc et puis ça va être le premier album qui va arriver. Ils vont se faire aussi pas mal connaître en faisant des concerts avec de grands noms de la scène hardcore comme Madball, pour nous vous en citez qu'un. Ça va être le premier groupe de hardcore français à jouer en Pologne. Désormais, c'est devenu chose courante, mais ça ne l'était pas à l'époque. Et donc, dans la foulée de tout ça, il va y avoir le premier album, What a Wonderful World. Et on y retrouve toute l'agressivité, la puissance que le groupe dégage sur scène. C'est un mélange de trash, de hardcore à la new-yorkaise. C'est un album qui va connaître son petit succès, puisqu'ils vont en vendre 2000 exemplaires. Et puis après, grosse tournée avec Napalm Death. Ils vont ouvrir aussi pour Anthrax, Hatebreed, Nostromo. Forest in Blood, c'est devenu à ce moment-là un groupe incontournable de la scène hardcore. En 2005, le groupe split, et en fait suite à un changement de line-up, ils vont quand même plus ou moins se reformer, mais sous un autre nom. Ça va s'appeler Apocalypse Now. C'est un projet qui est plus métal. Ils vont sortir sous ce nom deux albums, et puis 2010, et ben cette fois-ci c'est la reformation de Forest in Blood, mais il aura fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour découvrir un véritable nouvel album, un concept album qui s'appelle Pirate. Vous l'aurez compris, c'est un concept album qui tourne autour du thème des pirates, de la piraterie, et je pense que c'est un très très beau retour que nous fait le groupe. L'album, il est assez époustouflant. On va en écouter un extrait dès maintenant avec un titre qui s'appelle My Dues. Et voilà, ça c'est pour se mettre dans l'ambiance de l'interview de tout à l'heure. Following the ring, Frederick of Flesh and Gold. Night C'était Forest in Blood sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Melod. Forest in Blood, un extrait de l'album Pirate ou Pirates, je sais pas comment on prononce, on va leur poser la question tout à l'heure puisqu'ils seront avec nous pour une interview pour nous présenter le groupe, l'album. Et que voulais-je vous dire? Oui, si ce n'est que l'album est disponible depuis le 29 octobre, mais de toute façon, on en reparle un petit peu plus longuement tout à l'heure de ce concept d'album de hardcore qui tourne autour de l'univers des pirates, et c'est très très riche, hein. On rencontre tout au long de l'album des symboles de nos amis pirates, on retrouve aussi des grands noms historiques, c'est vraiment très très bien et j'ai hâte qu'on en discute tout à l'heure. Passons maintenant, si vous le voulez, aux sorties de la semaine et même du jour, puisque en ce 7 décembre, c'est la sortie du nouvel album de Metal Church, un album qui s'appelle Damned If You Do. Alors Metal Church, c'est un groupe qui nous vient de San Francisco, c'est un groupe qui a été formé en 1980 par le guitariste Kurt Vanderhoof, qui à l'époque va auditionner un certain jeune batteur du nom de Lars Ulrich. Alors visiblement, Ulrich ne fera pas l'affaire, il devra se contenter de devenir le batteur de Nirvana, groupe très peu connu. Le projet de Vanderhoof va être un flop d'ailleurs, il va rentrer chez lui à Aberdeen dans l'état de Washington en 81, et puis quand même il va retenter le coup, il va fonder un groupe qui s'appelle Shrapnel et il va le rebaptiser Metal Church en 1984. Alors Metal Church, c'est du heavy metal, sonorité très trash, du heavy metal plutôt dans le style New Wave of British Heavy Metal, du trash, et ben comme il s'en faisait au début des années 80, voilà, vous mixez tout ça et vous avez un petit peu le son de Metal Church. Depuis sa création, le groupe a connu deux séparations, il a vu défiler aussi plus d'une vingtaine de musiciens, et actuellement il se compose donc de Kurt Vanderhoof et Rick Van Zandt aux guitares, de Mike Howey au chant, de Steve Unger à la basse et de Stet Howland, un ex-Wasp donc, à la batterie. Le premier album de Metal Church, il sort en 84, mais c'est avec le suivant, Dark, qui paraît en 86, que le succès commercial arrive, en partie grâce au clip de la chanson Watch the Children Pray, dont le clip va être diffusé assez régulièrement sur MTV. Alors, c'est un groupe Metal Church qui va être très influent sur la scène heavy thrash jusque dans les années 90, mais qui va ensuite connaître un parcours beaucoup plus chaotique. Il y aura une première séparation en 94, un retour en 98. À ce moment-là, ils vont enchaîner 4 albums qui, malgré des critiques majoritairement positives, vont passer largement inaperçus auprès du public. Et c'est donc dans l'indifférence quasiment totale que Metal Church va marquer un nouveau hiatus de 2009 à 2012. Et suite à cette deuxième reformation, eh bien, le combo va d'abord sortir le très moyen Generation Nothing, ce qui fait qu'on était assez loin d'imaginer son retour en force avec l'album Eleven, qui est paru en 2016, qui, avec son style à la croisée du heavy et du thrash, justement à cette fameuse sauce New Wave of British Heavy Metal, va rappeler les heures de gloire de Metal Church. Et c'est donc un nouveau chapitre que le groupe avait ouvert avec Eleven, un chapitre qui se poursuit avec Damned If You Do, un 12e album taillé pour plaire aux fans, que ce soit pour son dynamisme entraînant, ses riffs affûtés, ses solos inspirés, ses lignes de chant entêtantes, son groove, ses ambiances diverses et variées, ou tout simplement son efficacité musicale. Donc amateur de heavy old school, cet album il est fait pour vous. En voici tout de suite un extrait avec le titre By The Numbers, voici Metal Church sur Bag FM.
My life's by the numbers. Counting. numbers, counting backwards every day.
Metal Church sur Back FM avec le titre By the Numbers, un extrait du nouvel album Damned If You Do qui paraît aujourd'hui. Pour les amateurs de bon vieux heavy metal trash à la sauce 80s, c'est vrai que le son est très marqué. Alors soit ça va plaire aux vieux briscards qui ont connu cette époque bénie des années 80, mais je pense que ça peut plaire aussi à pas mal de jeunes, puisqu'il y a un véritable engouement qui se refait pour tout ce heavy à la sauce old school. Il suffit de voir tous les jeunes groupes qui se lancent. Moi je pense que ça peut plaire aussi aux plus jeunes. Donc voilà, retenez le nom Metal Church. Et puis aller faire un petit tour du côté de leurs vieux disques. Peut-être que vos parents en ont, ou de toute façon on retrouve facilement maintenant sur internet, et ça c'est cool. Vous êtes toujours sur Back FM dans l'émission Check Me Load, et la deuxième sortie de ce 7 décembre, eh bien c'est le nouvel album de Jason Becker, un album qui s'appelle Triumphant Arts. Et alors, faut bien avouer que même s'il est signé Jason Becker, les morceaux ils sont pas interprétés par lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, qui est Jason Becker? Alors c'est un guitar hero américain qui est issu du courant métal néoclassique, qui a été impulsé notamment par Yngwie Malmsteen dans les années 80. On y revient, ces fameuses années 80 à chaque fois. Et Jason Becker, c'est quelqu'un qui est doté d'une technique extraordinaire, d'une attaque très agressive, presque staccato. Il va vite devenir un des guitaristes les plus prometteurs de cette scène florissante de l'époque, dont sont issus donc Malmsteen que je viens d'évoquer, mais aussi Joe Satriani, Steve Vai, dans les années 80, voilà. On est dans cette vague de guitar hero où c'est celui qui balancera le plus de technique avec le plus de tapping, le plus de shred. Enfin voilà, on est un petit peu dans la démesure. En 1985, Jason Becker, qui n'a que 16 ans, rencontre un autre guitar hero en puissance du nom de Marty Friedman, futur guitariste de Megadeth. Et ensemble, ils vont fonder le groupe Cacophony. Ils vont sortir deux albums. Il y aura Speed Metal Symphony en 87 et puis Go Off en 88. Et puis ensuite, Becker va sortir un album solo, instrumental, avant d'être recruté par David Lee Roth lui-même, l'ex-chanteur de Van Halen, qui mène à ce moment-là désormais sa carrière solo. Et à cette époque, c'est un avenir aussi prometteur que radieux qui s'annonce pour le jeune prodige de la guitare. Mais malheureusement, très peu de temps après l'album de la sortie Little Ain't Enough de David Lee Roth, Jason Becker va être diagnostiqué comme souffrant de la maladie de Charcot. Alors, c'est une maladie qui est terrible, c'est une maladie dégénérative qui affecte le cerveau, les cellules nerveuses, la moelle épinière, et puis on devient au fur et à mesure totalement paralysé. C'est de cette maladie dont souffrait par exemple le célèbre astrophysicien Stephen Hawking. Pour ceux qui voient un peu mieux si j'utilise ce fameux personnage qui est décédé l'an dernier. Donc Jason Becker, lui, il est totalement paralysé depuis 94. Il communique grâce à un système qui a été mis au point avec son père, qui fonctionne à l'aide de mouvements oculaires. Et c'est ce même système qui lui a permis de composer avec des ordinateurs les morceaux de l'album Triumphant Arts qui paraît aujourd'hui, et qui a pu être enregistré grâce au crowdfunding et à la générosité des fans. Alors bien sûr, Jason Becker, il peut plus du tout jouer de guitare, c'est évident. Et bien qu'à cela ne tienne, des amis et grands noms de la guitare sont venus lui prêter main forte. Ainsi, Marty Friedman, Steve Vai, Joe Satriani, Joe Bonamassa, Trevor Rabin, Chris Broderick, Uli John Ross ou encore Steve Morse se sont succédés avec leurs 6 cordes pour donner vie aux 14 morceaux qui composent le disque. Et avec ce nouvel album, Jason Becker nous livre une belle preuve de courage face à la maladie et face au handicap. Il nous montre également qu'il a absolument rien perdu de ses talents de compositeur, de sa créativité. Et pour vous en donner la preuve, on va écouter un titre qui s'appelle Valley of Fire, qui est interprété avec le Magnificent 13. Donc 13 musiciens qui sont Steve Vai, Joe Bonamassa, Paul Gilbert, Neil Schon, Marty Friedman, Michael Lieferkins, Matthias Eklund, Greg Owe, Jeff Loomis, Richie Kotzen, Gus Jay, Steve Hunter et Ben Wood. Ça fait du monde tout ça, voici Jason Baker sur Back FM.
Yeah.
Jason Baker à l'instant avec le titre Triumphant Art, non, avec un extrait de l'album Triumphant Art qui paraît aujourd'hui. Le titre, lui, s'appelle Valley of Fire, interprété avec le Magnificent 13, dont font partie notamment Steve Vai, Joe Bonamassa, Paul Gilbert, Marty Friedman et d'autres, hein, puisqu'ils sont 13. Jason Baker qui a donc composé l'intégralité de cet album. C'est d'autres musiciens qui sont venus les interpréter pour lui, puisque je rappelle que Jason Baker est malheureusement paralysé, mais c'est quelqu'un de courageux qui lâche rien, et rien que pour ça il mérite vraiment qu'on s'intéresse à son travail, à son album. C'est vraiment une très très belle prouesse. L'émission va décidément être très marquée par les années 80, puisque tout à l'heure je parlais de jeunes gens qui se lancent dans un style très inspiré de ces fameuses 80s. Et bien c'est le cas du groupe qu'on va découvrir maintenant dans cette émission Check Me Load, un groupe qui s'appelle Burning Witches, qui a sorti le 9 novembre un album qui s'intitule Exenhammer. Et ce groupe a une petite particularité, donc il est né en 2015, jusque là rien d'étonnant, en Suisse. Bon voilà, il y en a des groupes suisses, à Bruck précisément, mais voilà, cette formation elle est exclusivement féminine, et ça il y en a encore pas assez je pense dans la scène métal, même si ça s'est quand même grandement amélioré, qu'il y en a de plus en plus. Donc le groupe se compose de Seraina au chant, Romana et Sonia aux guitares, Jay à la basse et Lala à la batterie, et elles font un heavy metal old school avec un chant ultra puissant. La frontwoman du groupe, Seraina, est d'ailleurs souvent comparée à Rob Halford, rien que ça. Alors on avait découvert les Burning Witches avec un premier album éponyme qui était paru en 2017, depuis elles ont signé chez Nuclear Blast, et début novembre, donc, elles étaient déjà de retour avec ce fameux Exenhammer, un deuxième album qui confirme le potentiel prometteur des Suissesses. Telles des sorcières du Heavy, les Burning Witches nous ont concocté dans leur chaudron magique une dizaine de compos aussi efficaces que redoutables et totalement taillées pour déchaîner les foules en live. On notera dans Exenhammer la performance vocale impressionnante de Seraina, qui s'impose comme la digne fille spirituelle d'un Bruce Dickinson ou d'un Ronnie James Dio. C'est justement sur une reprise du mythique Holy Diver que se clôt de la plus belle des manières ce deuxième effort de Burning Witches. Mais c'est une compo qu'on va écouter. C'est le titre Open Your Minds, un extrait de l'album Exenhammer, ça se prononce bien comme ça. Voici tout de suite les Burning Witches. Avouez, vous avez eu les bracelets à clous qu'on poussait au poignet hein, pendant cette chanson de Burning Witches Open Your Mind, groupe qui nous vient de Suisse, dont le nouvel album Exenhammer est paru au mois de novembre, du très très bon heavy metal. Ce sont de jeunes femmes et elles aiment le metal old school et c'est très bien. Voilà, il y a un petit côté Maiden, un petit côté Dio, un petit côté Judas Priest. Ça fait vraiment plaisir. C'est de très bon augure pour les prochains albums de ces demoiselles qu'il va falloir suivre absolument. D'ici quelques minutes, on devrait avoir quelqu'un de Forest in Blood pour parler de l'album Pirate, nouvel album du groupe. En attendant, on va essayer de se mettre un petit morceau d'un groupe français, justement, un groupe qui nous vient de Bordeaux, c'est Gorod, qui a sorti le 19 octobre un album intitulé Aethra, ou Aethra, je sais pas trop comment on prononce. Donc, Gorod, groupe qui existe depuis 1997, qui a été connu jusqu'en 2005 sous le nom de Gorgasme. Deux des membres fondateurs font d'ailleurs encore partie du groupe aujourd'hui. Il s'agit du guitariste Mathieu Pascal et du bassiste Benoît Klaus, qu'on appelle Barbie. Bah ouais, voilà. Alors Gorod, c'est du death metal avec des influences thrash, prog, heavy. En 2004, le combo sortait son premier album qui s'intitulait Neurotrip 6. C'était via le label frontier Dead Sun Records, mais l'album va être réédité l'année suivante par un label américain qui s'appelle Willowtip Records. Alors c'est à cette période que Gorgasme va devenir Gorod, puisqu'il y a déjà un groupe de death metal à Chicago qui s'appelle Gorgasme, donc bah, il faut bien changer de nom. Après des critiques plus qu'élogieuses de la part des médias internationaux, Gorod sort en 2006 l'album Leading Vision, qui sera suivi d'une importante tournée, durant laquelle eh bien, ils vont se produire au Maryland Death Fest. Ça se passe à Baltimore et c'est un des festivals les plus importants aux États-Unis en matière de métal extrême. Alors à chacune de ces prestations, le combo laisse les spectateurs ébahis par tant de techniques, de précision, d'efficacité. Depuis, Gorod n'a cessé de mettre la barre plus haut, de repousser ses limites, comme en témoignent les albums Process of a New Decline en 2009, qui reçoit des critiques dithyrambiques. Il y a eu Perfect Absolution en 2012 qui marque l'arrivée du chanteur Julien Dereys. Et puis il y a eu A Maze of Recycled Creed en 2015 qui a été encensé par tout le monde. Et comme si cette monumentale mandale ne suffisait pas, eh bien les Bordelais nous en avaient remis une petite derrière les oreilles l'an dernier avec un EP qui s'appelle Kiss the Freak, de façon à nous annoncer ce qui allait nous tomber sur le coin du nez avec la sortie de leur futur album qui est donc paru mi-octobre et qui s'intitule, comme je le disais, Aethra. Il a été produit et enregistré par Mathieu Pascal, tête pensante du groupe, puis il a été mixé par le génialissime Daniel Bergstrand, qui a bossé avec Meshuggah, Behemoth, In Flames. Et Aethra s'impose d'ores et déjà comme un album incontournable de cette fin 2018. Plus que la continuité de son prédécesseur, ce nouvel opus monte encore une fois d'un cran en termes de qualité de production, d'écriture, d'arrangement. Avec Aethra, Gorod nous transporte dans un univers plus tragique, plus mélancolique que sur les albums précédents, dans une noirceur toute nouvelle, mais tout en conservant ce qui a fait sa typicité, son succès, c'est-à-dire son groove assez incomparable, sa dextérité tout à fait remarquable, et puis sa technicité. C'est dur à dire, implacable. C'est des compos qui sont plus catchy que jamais. Et voilà, Gorod devrait encore une fois faire rayonner le death metal made in France à travers le monde. Voici un extrait de l'album Aethra. Le titre, c'est Becton's Curse. Voici Gorod sur Back FM. C'était Gorod à l'instant sur Bac FM 106.1, extrait du nouvel album. L'album c'est I Try, il est sorti, c'était mi-octobre, et le titre que vous venez d'écouter c'était Bacon's Curse. Voilà pour les bordelais de Gorod. Et chose promise, chose due, j'ai avec moi un des membres du groupe Gorod. Je suis en compagnie de Bart qui est guitariste. Salut Bart.
Salut.
Tu vas bien?
Ouais, ça va
et
toi?
Eh ben super, en tout cas ça me fait bien plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de Forest in Blood et puis pour parler de votre nouvel album qui est paru le 29 octobre, c'est bien ça?
Exactement.
Alors, donc c'est bien sûr de cet album dont il va être principalement question, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on vienne quand même quelques instants sur la carrière du groupe qui fête quand même ses 20 ans d'existence.
Ouais, putain.
Ça rigole pas, vous vous êtes formé en 98. Est-ce que tu veux bien nous résumer un petit peu quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui?
Alors, il a été complexe.
Ouais.
Mais on s'est rencontrés, on était gamins, on avait quoi, 18 ans, 17 ans? Et puis on voulait faire du son, on voulait faire quelque chose qu'on n'entendait pas. À l'époque, c'était quand même beaucoup moins riche musicalement dans le metal hardcore qu'actuellement. Et puis on s'est dit putain, il y a quand même un truc, on n'arrive pas à entendre exactement ce qu'on veut, même si on est quand même super fan de certains groupes. Hein. Et c'est un peu parti de là. Quoi. Donc on a fait un espèce de mix entre Slayer et Hatebreed.
D'accord.
Je sais pas encore, Hatebreed, hein, mais c'est pour faire le truc. Voilà. Mais ça ressemblait un peu à ça. Et puis ça a plutôt pas mal marché, on a eu de la chance. Bon, après on n'était pas nombreux donc c'est normal. Et puis on a fait notre petit chemin, on a joué pas mal en Europe, on a joué un peu partout et on a sorti des albums qui sont cool.
Et
je t'écoute, oui.
Oui, tu parlais de Slayer, je voulais savoir, j'ai une question toute bête, mais Forest in Blood, c'est un rapport avec Rain in Blood ou pas?
Ouais, bien sûr. Bon après dans la vraie histoire c'est notre ancien batteur qui avait pris un extra et on était en forêt et il voyait la forêt qui saignait et donc il arrêtait pas de hurler Forest in Blood, du coup on le remercie tous les jours.
D'accord. Donc excuse-moi, du coup je t'ai coupé la parole.
Non mais voilà, bah après je sais plus ce que je disais, mais en fait tu sais, au bout de 10 ans d'un groupe obligatoirement on s'essouffle un petit peu, on a une vie de famille, on vieillit. Donc on a mis un petit stand-by, mais on se voyait toujours. Et puis là, dernièrement, on a eu envie de repartir. Et c'est plutôt sympa.
Alors en fait, vous vous êtes formé en 98, vous le notez dans le Facebook, à l'époque où on a gagné la Coupe du Monde, et vous revenez quand on gagne la deuxième, quoi.
Alors je te promets que si on avait perdu, on se ferait pas former. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. On se demande, mais c'est quoi ce bordel? Et puis c'est pareil, en ce moment, on trouve que le metal hardcore, ou même c'est le metal, là, il y a un truc qui se relance, c'est vraiment chelou. Alors, c'est peut-être le cycle normal. Mais en tout cas, on est dans l'ère de ce qui nous plaît. Alors, on voit plein de groupes qui déchirent, ça c'est super sympa.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de groupes qu'en 98, quoi, où vous étiez effectivement peu nombreux, mais il y avait de la qualité, quoi. C'est ça le truc. Aujourd'hui, c'est peut-être plus perdu dans la masse. C'est peut-être plus difficile du coup.
Ah ouais, il y a énormément de gars. Après, nous, on a de la chance d'avoir un public d'anciens qui nous suit. Et puis c'est vrai que les nouveaux, ils jouent super bien, les gars, ils cartonnent hein, quand même.
Ouais.
Mais après, non, on fait pas la même chose, quoi. Alors c'est vrai que quand les gars, ils nous réécoutent, je dis, on est la Madeleine de Proust du métalleux, quoi.
C'est ça.
Les gars, quand ils réécoutent ça, là ils ont toutes les saveurs qui reviennent en bouche et ils ont envie de se mettre sur la gueule. Donc ça fait toujours plaisir.
Alors c'est un peu grâce à la dernière édition du festival Super Bowl of Hardcore que vous avez décidé de relancer la machine, je crois, hein.
C'est ça, avec notre pote Yvan, là, qui a dit, putain, ça fait 20 ans, les gars, on n'avait même pas fait gaffe, nous. Il dit, putain, ça fait 20 ans que vous hésitez, les gars, venez, il y a de la bière, il a fait, ouais, et des saucisses, du coup, on est venu, et c'était super bien, en plus, on a joué avec Archangel et Born From Pain, des vieilles connaissances, et des vieux potes, hein.
Ouais, grosse affiche,
Ouais, voilà, et puis Born From Pain, l'air de rien, le chanteur, c'est celui qui nous avait signé avec notre autre groupe qui s'appelait Apocalypse Now.
Ouais.
Donc, du coup, on était un peu en famille, quoi. Et ça donne super envie de recommencer, quoi.
Alors voilà, c'était en mars 2018. L'album, il est arrivé en octobre, donc ça s'est enchaîné très très vite jusqu'à la sortie de Pirate.
On a écrit l'album en 2 mois.
Ah ouais?
Ouais, on a écrit l'album en 2 mois et on n'avait jamais fait ça. Moi, j'étais plutôt, à la base, j'écrivais beaucoup dans Forest in Blood, donc je mettais du temps, je mettais un an et demi à écrire un album. Voilà. Et puis là, puis là, au fait, on a un pote qui nous a dit « Ouais, j'organise un gros concert le 29 octobre à Paris, ça vous branche ?» J'ai fait « Ok ». Et j'ai dit à mes collègues « Bon, bah, on va tout écrire. Il nous reste 2 mois avec les vacances. Voilà, on a 2 mois pour écrire. » Et on a changé notre manière de fonctionner. On a recruté quand même Pierre Desiars,
ouais,
dedans, en passant, hein, qui est quand même un moteur assez fort.
Ouais.
Et puis en fait on avait parti sur le thème voilà de notre album Pirate qui nous correspond bien et on a changé notre manière d'écrire et ça a hyper bien fonctionné et du coup on a vraiment une couleur et un sens qu'on n'avait pas prévu à la base et on est super satisfait en fait.
Et donc tu en parlais, hein, vous avez recruté Pierre Acedo, qui est le guitariste de The Arts, mais qu'on retrouve là à la basse.
Ouais, parce qu'il en avait marre, c'était trop compliqué.
D'accord, il n'y a plus que 4 cordes, là c'est plus simple.
Ouais, c'est ça, bon, on lui en a enlevé 2.
et plus sérieusement, comment il a rejoint les rangs de Forest in Blood?
Bah, c'est The Arts, c'est des vieux potes.
Ouais.
Voilà, c'est des vieux potes. Je crois que le premier concert qu'ils ont fait, on les a mis en première partie de notre concert.
D'accord.
Et donc c'est vraiment une vieille histoire. Après, bon, The Arts, ils ont une histoire incroyable.
Ouais.
Mais c'était un peu la même équipe. Donc c'est normal quand on lui a dit vas-y, viens jouer avec nous, qu'ils viennent. C'était presque naturel.
Et du coup, il a pu participer à l'écriture ou il a juste participé?
Il a écrit un tiers de l'album.
D'accord.
Ça c'est pas mal de repartir. Moi, j'ai écrit un tiers, Hervé un tiers et lui un tiers. Bon, après, je parle en écriture fondamentale, hein, parce qu'après, il y a...
Ouais, tout le monde après a ajouté sa pierre.
C'est ça, exactement. Mais dans l'écriture fondamentale, on a partagé ça en 3, ce qui nous a permis aussi de répondre à un délai aussi court.
Ouais.
Et avec, on s'est mis des figures imposées, on va dire. Du ternaire, des sonorités spéciales qui rentrent dans le concept. Et donc, on a tous travaillé autour du concept, quoi.
D'accord. Alors, l'album, il s'appelle Pirate ou Pirates, comment on prononce?
Pirate.
Pirate.
En anglais.
Ah ouais, Pirate. Je suis très nul.
Ou pirate en français. Mais j'aime bien, moi, pirate.
Pirate, ouais.
Ouais, parce que les pirates, c'était des Français à la base.
D'accord.
Et donc oui, bon, après, c'est écrit en anglais parce qu'on a l'habitude d'avoir un peu d'international,
ouais,
chez nous, enfin, dans notre groupe. Mais on aurait très bien pu l'écrire en français si on savait écrire en français. Ça aurait été très bien.
Eh ben justement, donc l'album Pirate et son concept, eh bien c'est la piraterie, hein. Comme son nom l'indique, voilà, il n'y a pas à se tromper sur le produit. Donc la piraterie avec ses légendes, ses codes, son histoire, c'est un thème qui doit être assez énorme à explorer, non? Il y a plein de choses.
Bah, mais je vais te dire, tous ceux qui écoutent notre musique, tous ceux qui font du métal, du hardcore, on est tous des pirates.
Ouais.
On a tous été contre-culture, on est tous contre le pouvoir, on est tous une version différente de ce que les autres voudraient qu'on soit. Donc en fait, c'était naturel qu'on mette ce nom-là parce que ça nous correspondait en fait. Même
D'accord.
si on est plus vieux, c'est dit voilà, qu'est-ce qu'on est, c'est quoi qu'on est fondamentalement quoi. Et dans notre musique, dans nos lyriques, dans ce qu'on est, c'est eux qui nous représentent. Donc on a été à l'essentiel, on s'est dit bon, on va l'appeler Pirate.
D'accord.
Efficace.
À travers les chansons, on croise tout cet univers, on croise des grands noms de la piraterie, des dieux, tout ça. Est-ce que vous vous êtes documenté pour écrire cet album? Ça a été quoi vos sources d'inspiration?
Il y a beaucoup de lectures, hein, en effet. Surtout de la lecture. Hein. Après tout l'univers, enfin disons que, on va dire tout l'univers politique ou tout ça. Bon, après c'est quelque chose qui est pas spécialement, tu peux pas lire dans les histoires, mais tu vas reconnaître ne serait-ce que dans ce qui se passe en ce moment en France.
Ouais.
C'est-à-dire voilà l'envie d'avoir une égalité, de se battre pour défendre ses idées. Donc ça c'était le fondement, mais ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est-à-dire que c'est ce qu'on croit.
D'accord.
Après la piraterie, ça te permet d'imager un peu tout cette envie. Et puis ça permet de créer une histoire aussi, parce qu'on s'est dit, nous on écoute en ce moment par exemple beaucoup Mastodon,
ouais,
ou Baroness, ou même Engmanshare, nos potes là,
oh, Manchers, où il y a des Carton. Identités fortes, des univers bien marqués.
C'est ça, mais surtout voilà, c'est des gens qui t'amènent avec un album,
ouais,
et ils t'amènent quelque part.
Ouais, ouais.
Moi je suis de la vieille école, moi quand j'écoute un album, j'ai envie d'écouter du premier morceau au dernier. Moi je voulais que les gars, quand ils écoutent, ils écoutent le premier et le dernier morceau et qu'ils étaient transportés pendant 40 minutes. Voilà, ils ont pensé à autre chose, ils ont été amenés. Et je pense qu'on a réussi à le faire. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui nous parlent du dernier morceau, donc j'imagine qu'ils ont écouté tous les autres morceaux. Voilà.
Mais ça, c'est un album que c'est pas le genre d'album où tu picores, voilà, un petit bout comme ça. C'est vraiment le genre d'album, oui, qu'il faut écouter du début jusqu'à la fin. Et quand on l'écoute, cet album, j'ai presque l'impression de sentir un peu l'air iodé autour. C'est.
Ah, ça, on l'a chopé avec le ternaire.
Ouais.
Parce que ça, c'était les figures imposées de ce que je parlais. C'est voilà, en fait, c'est tout. Allez, on va écouter, tu vois, ICO Santiago, là, je sais pas quoi, là, et on va retrouver du ternaire dedans. En fait, il y a toute une mécanique technique de musique qui t'amène à avoir cette impression.
Ouais.
La houle, etc. Après, bizarrement, les sonorités black metal aussi amènent beaucoup ce côté-là.
Mais oui, il y a un petit côté death black aussi sur cet album.
Et moi, je pensais pas, en fait, en cherchant les notes, je me suis aperçu que le black metal, à l'air de rien, ça t'amène au bonnet rouge, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est complètement différent, mais ça t'amène ce sentiment iodé, ça t'amène ce truc entraînant, et on l'a mis un peu partout, et ça marche, en fait, on était super contents.
Et moi, la dernière fois où j'avais ressenti ce sentiment, alors le groupe n'avait rien à voir avec vous, c'était un album de Dagobah, en fait.
Alors, ça dépend lequel.
Eh bien, c'était Poséidon.
Ah oui, il est vieux.
Ah, il est vieux, ouais, ça commence déjà à dater un petit peu. Mais voilà, ça n'a rien à voir musicalement avec vous, mais il y avait aussi ce petit truc
qui
flottait.
Je suis d'accord, mais bizarrement, je l'écoutais il n'y a pas longtemps, des morceaux où ils se montrent très pirates, etc. Mais je pense que c'est un peu tout ce qui est côté mer.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui...
Ça influence aussi l'imagination.
Mais ce qui est marrant, si tu parles de Dagobah, c'est que notre ancien batteur, c'est le nouveau batteur de Dagobah.
Ouais. Fred Bastos. Nicolas Bastos, pardon.
Ouais, bah oui, tu peux l'appeler Bastos, hein. Ouais. Si t'en voudras pas. C'est marrant, bah oui, on s'entend toujours bien avec lui. Il nous a fait un peu de pub là, dernièrement. On lui a envoyé un t-shirt, il nous a fait un peu de promo, c'est cool.
C'est cool ça. Alors l'album, ouais. il a été enregistré au studio Sainte-Marthe, en grande partie, hein, pas que là, mais c'est là où il a été enregistré en majeure partie, ce nouvel album. Francis Cast, on le présente plus, vous aviez déjà collaboré avec lui, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de nouveau appel à lui?
Non mais c'est le mec incontournable en France.
Bah, on parlait de Hangman's Chair tout à l'heure, par exemple.
Bah oui, mais c'est la même team, quoi. C'est-à-dire que tu veux un mec qui t'accompagne, qui t'apporte une couleur et qui te conseille, tu vois... C'est Francis Cast, tu peux pas faire autrement.
Ben ouais.
Bon, déjà, faut qu'il t'accepte, c'est déjà bien, mais nous, comme on le connaissait depuis longtemps, il pouvait pas refuser. mais c'est, voilà, c'est un mec, il est fabuleux. Du coup, ça va de soi qu'on va chez lui parce qu'on sait que ça va ressortir. C'est un peu, tu fais un brainstorming avec lui, tu lui racontes ton histoire, etc., et puis il te dit comment il faut faire, quoi.
Ouais. C'est assez magique, quoi.
Ouais, c'est super. Bosser avec ce mec, c'est super.
Bon, en tout cas, la production est vraiment terrible, quoi. Enfin, on prend une claque, c'est monumental.
Ah, c'est
J'aimerais aussi qu'on dise quelques mots sur l'artwork, parce que lui aussi, il m'a bien plu. J'ai trouvé aussi très très réussi. Alors, il est signé d'un illustrateur et aussi tatoueur réputé, c'est Danny Grrr, c'est ça?
Ouais. Pas facile.
C'est pas facile, hein. C'est fait exprès en plus, je crois.
Ouais. Bah, c'est un mec que je connais depuis une vingtaine d'années, à peu près, hein, donc... Et ce qui est marrant, c'est que quand on a joué à Paris, quand on s'est fait inviter après le Super Bowl of Hardcore à Rennes, qu'on a joué à Paris, au Gibus,
ouais.
il est venu picoler, hein, comme d'hab, nous voir, et il m'a dit, putain, je ferais bien ton prochain artwork de CD, et je lui ai dit, attends mec, je suis pas sûr que je vais faire un CD, quoi. Ouais, mais si tu veux, je te le fais, machin. Je fais, vas-y, Denis, je l'ai rappelé au mois de juin, je fais, bon, bah, je crois qu'on a fait un album, ça te dit. Et du coup, on s'est tapé des brainstorming avec lui pour qu'il comprenne le concept. En plus, il est bien starbé. Et il a mis un mois à nous faire le truc. Et franchement, ça défonce.
Ah ouais, mais bravo.
Il est super fort, il est complètement fou. D'ailleurs, il me rejoint dans pas longtemps pour boire des bières. Et donc, c'était vraiment super cool d'avoir un mec comme ça qui te crée tout ton univers graphique, quoi. C'est hyper important, quoi.
Ouais, c'est vrai que l'artwork est vraiment très très chouette. Et puisqu'on parle image aussi, vous avez déjà publié, alors cette fois-ci en vidéo, deux lyrics vidéo. Il y a eu les morceaux Legacy et My Dues, qu'on a d'ailleurs écouté en début d'émission. Vous avez prévu de sortir d'autres clips?
Ouais, alors il y en a un prochain qui sort, c'est Descendants.
D'accord.
Descendants, qui est plus classique, où on joue dans un hangar, avec quelques petits effets de ralenti, figure imposée. Fait par un réal qui s'appelle Alec Garboski, qui est super. C'est lui qui a fait aussi le clip My Dues.
Ok.
Et puis après, je pense qu'on va mettre en image tous les morceaux parce que ça fait partie de notre univers. Et, Et comme on bosse un peu tous aussi dans la vidéo, enfin, c'est dans notre job à côté, pour vivre.
Ouais.
du coup, on va se faire plaisir, on va essayer de sortir, on va essayer vraiment de développer tout l'univers.
D'accord. Bah, toutes les vidéos, on peut les voir sur YouTube. On peut aussi aller faire un tour sur votre page Facebook, hein, où vous mettez aussi plein de choses sur la piraterie, tout ça. C'est une très belle page Facebook.
Ouais.
On apprend plein de choses.
Voilà, et c'est très didactique.
C'est ça. Alors, l'album, il est paru le 29 octobre. Vous l'avez présenté en live durant la release party au Gibus. C'était le même jour.
Ouais.
J'imagine que maintenant, vous avez hâte de prendre la route pour le défendre aux quatre coins de France et voir de l'Europe. Vous avez déjà des dates de prévues?
Alors, on a commencé, oui, alors c'est le tout début, hein. Enfin, faut lancer la machine.
Ouais.
Mais, là, on joue la semaine prochaine à Cherbourg.
D'accord.
Juste à Bar. Qui s'annonce pas mal, hein, parce qu'il y a pas mal de préventes, enfin de préventes, de personnes qui sont prévues de venir. Après, on joue à Colmar au Grillen, on joue à Nantes à la scène Michelet, on a aussi à Viry-Châtillon, je sais plus, un truc comme ça. Et puis après, on joue, je sais plus, à Poitiers, à Bordeaux, à Lyon, enfin voilà, tout ça c'est en train de se finaliser, donc on va faire une vingtaine de dates en France, je pense, pour 2019.
Okay.
Après, on va basculer sur l'Europe, je pense. La Belgique, Allemagne, Pologne et Angleterre. On prévoit 2-3 trucs avec Knuckle Dust, nos vieux potes.
Ah,
aussi.
Cool.
Voilà, avec qui on s'entend super bien. Et... Enfin voilà, il y en a plusieurs trucs, peut-être avec l'esprit du clan, s'ils arrivent à trouver de la dispo, ça serait cool, parce qu'on s'entend bien aussi. Voilà.
Ouais, c'est aussi une grosse valeur de la scène française, l'esprit du clan.
Non, et ils cartonnent, hein. En plus ils sortent un album là, qui sonne grave.
Donc tout ça à retrouver, bah, pareil, hein, sur les réseaux sociaux, site internet, Facebook, etc.
Voilà.
Ouais. Et bien Bart, je te remercie en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler, bah, pour parler du groupe et puis pour parler de cet album. On va l'appeler Pirate à la française.
Pirate.
En attendant de vous retrouver sur scène, peut-être vous viendrez nous voir ici à Nevers, je sais pas.
C'est avec plaisir.
En tout cas, on
fait une fête des frigadelles là-bas ou pas?
Ah non, on est en plein.
Ah, ouais,
plein milieu.
Je sais pas, alors je suis pas sûr.
Par contre, on a du charolais et du pinard. Hein.
Bon bah ça va alors.
Donc, vous mangerez bien, il y aura à boire, ce sera cool. Si vous voulez venir nous voir,
avec plaisir.
Vous serez les bienvenus. Et puis,
on vient partout, nous.
Eh ben, écoute, s'il y a des programmateurs qui nous entendent.
Ouais, avec plaisir. En tout cas, et puis, comme ça, on paiera une bière.
Eh ben, avec grand plaisir.
Un peu de rhum.
Et ben, en attendant ce moment où vous viendrez nous voir en live, on va écouter en boucle l'album Pirate, hein, puisqu'il est disponible.
Ouais.
En physique, en numérique, sur les plateformes de téléchargement,
voilà,
de streaming.
C'est gratos, faites-vous plaisir.
Et puis, bah, d'ailleurs, on va se faire plaisir tout de suite, puisqu'on va se quitter avec un extrait du disque. Et j'avais envie d'écouter The Code, est-ce que ça te va?
Ouais, c'est bien, c'est moi qui l'écris, je l'aime bien.
Eh ben voilà, c'est parfait. Merci encore, Bart. Bon courage pour cette journée de promo, et puis à bientôt, alors.
Ouais, bah, je vous embrasse tous. À bientôt.
Salut.
Ouais, bisous. Salut.
Did no good, that's great, not fit. fatalité claire de victor. Mondiale, super blonde. United, united by the gun. Respected, united, united by the gun. Respected, respected.
C'était Forest in Blood sur Back FM avec le titre The Code, un extrait du nouvel album qui s'appelle Pirate, que je vous conseille vraiment très vivement si vous êtes amateur de bon hardcore. C'est grosse claque du moment que ce retour des Forest in Blood. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, eh bien malheureusement vous venez de rater l'interview de Bart, guitariste du groupe, qui était avec nous. Mais pas de panique, il y aura un podcast dans les jours à venir, donc voilà, il y aura moyen de se rattraper. Un groupe phare donc de notre scène hardcore qui était sur Back FM, l'album de Forest in Blood, Pirate, et le titre qu'on vient d'écouter, The Code. Et ben justement, Forest in Blood, c'est un groupe qui s'est formé il y a 20 ans, en 98. Et il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on écoutait? Puisqu'il est l'heure de la rubrique de 20 ans dans tes dents, la rubrique qui célèbre les 20 ans de l'émission Check Me Load, qui naissait également en 98, après la victoire de la Coupe du Monde. Et ben pour fêter ça, j'ai prévu, une fois tous les 15 jours, de vous présenter un groupe, un artiste, un album qui a marqué la période d'il y a 20 ans. Donc là, en l'occurrence, qui a marqué décembre 98, mais on va un petit peu tricher puisque c'est un album qui était sorti en septembre que je vais vous présenter. Donc qu'est-ce qu'on écoutait il y a 20 ans? Eh bien énormément de choses très bien, dont une toute nouvelle formation du nom de Queen of the Stone Age, qui venait de sortir son premier album éponyme. C'était précisément le 22 septembre 98. Et si le groupe est nouveau à ce moment-là, son créateur est loin d'être un inconnu pour les amateurs de stoner rock, puisqu'il s'agit de Josh Homme, ex-guitariste d'une gloire de la scène stoner. J'ai nommé le groupe Q's, qui est connu pour être un des groupes pionniers de ce qu'on va appeler le desert rock. C'est en effet dans le désert de Californie, à Palm Desert précisément, qu'était né Q's en 87, et que va naître aussi Queen of the Stone Age 10 ans plus tard, en 97. Alors sur le premier album de Queen of the Stone Age, Homme n'est pas le seul ex-Q's, puisqu'on retrouve derrière les fûts Alfredo Hernandez, et puis juste après l'enregistrement du disque, le duo va être rejoint par Nico Liveri à la basse, qui lui aussi est un ex-Q's. Largement acclamé à sa sortie, l'album Queen of the Stone Age va aussi vite séduire le public grâce à une identité qui est déjà forte, qui est déjà bien marquée, et qui annonce aussi les albums qui vont suivre. La guitare, elle est épaisse, elle est angulaire, la basse, elle est lourde et ronde, la batterie, elle est vive et crue. Et les riffs ont beau être massifs, lancinants et saccadés, il y a un sentiment étrange de légèreté qui se dégage de ce premier opus de Queen of the Stone Age. C'est pas étonnant que le combo va devenir le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, avec quand même quelques chefs-d'œuvre dans sa discographie, dont l'incontournable et mythique Songs for the Deaf, qui est paru 4 ans plus tard, en 2002. On se quitte donc sur le son des Queen of the Stone Age avec un extrait de ce premier album éponyme. On va écouter le titre Avon sur Back FM. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. On aura une interview, je vous en dis pas plus. Ce sera une surprise, mais ce sera avec un des membres d'un groupe qui a fortement compté dans les années 2000, qui s'appelait Watcha, un certain El Bucho qui est impliqué là-dedans. Alors je sais pas si c'est lui qu'on aura en interview, mais en tout cas, ce sera sa musique qui sera à l'honneur. Mais ça, voilà, ce sera dans une semaine, tout de suite, c'est Queen of the Stone Age. Très bon week-end sur Back FM, salut à tous!